Léa,
Clément,
Maïli,
Martin,
Kauta,
Noan,
Joyce,
Iman,
Nil, Léonce,
Chad.
À la jeunesse, à la jeunesse,
les migrants.
Making Waves.
Sonne au Maujat, Avignon.
Présente.
À la jeunesse,
les migrants.
Au Bacharatan, Mimirajan, Avignon.
Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes en direct du Festival d'Avignon pour la dernière émission d'À la jeunesse, les micros. La certitude est le grand ennemi de l'unité. La certitude est l'ennemi mortel de la tolérance. Même le Christ n'était pas certain à la fin. Deo meo, pourquoi m'as-tu abandonné ? S'est-il écrié dans son agonie à la 9e heure sur la croix. Notre foi est vivante précisément parce qu'elle marche main dans la main avec le doute. S'il n'y avait que de certitude, il n'y aurait pas de mystère et donc pas de doute.
Cette citation vient du film Conclave, sorti en 2024 et réalisé par Édouard Berger.
Est-ce que le doute est un allié ou un ennemi de la foi ?
Les croyances font d'une façon ou d'une autre partie de nos vies, que ce soit pour se rassurer, pour nous donner des réponses dans nos quêtes de sens, mais ça peut aussi nous éloigner de ce qui importe vraiment. Certains utilisent cette espérance pour en manipuler d'autres et les détourner de l'essentiel. Et comme on vit dans un monde de comparaison, beaucoup de personnes n'ont pas confiance en elles et sont très susceptibles de tomber dans des sectes ou autres croyances.
Pourquoi ce besoin de croire dans des promesses vides de sens ou faites par des leaders dont le seul atout est d'être charismatique ?
On refuse de voir, au moins au-delà de ce qui nous entoure. Sentir son intérieur n'est jamais trompeur, mais dans cette ère technologique, ça devient trop simple de trouver de nouveaux échappatoires et de ne plus s'écouter.
Le divin change de visage. Prophète, leader charismatique, promesse virale, prodige, influenceur, intelligence artificielle, héros milliardaire, mais il semblerait que le désir de croire demeure.
À la jeunesse, les micros.
Où m'emmènes-tu, mon frère ?
Ce sont les mots du groupe marocain Nesli Riwen, les gens de la bohème. Les Rolling Stones d'Afrique, pour reprendre les mots de Martin Scorsese. Des poèmes anticonformistes qui, dans les années 70, ont été fer de lance du mouvement riwanien. Six musiciens qui ont dessiné un nouveau paysage de la musique urbaine marocaine.
C'est aussi le titre de notre toute dernière émission d'À la jeunesse les micros, édition 2025. Bonjour à toutes et à tous. Comme je ne voulais pas dire au revoir seul, Noan sera animateur à mes côtés. Coucou Noan.
Salut Léa. Aujourd'hui, on est accompagné de Iman, Martin, Clément et à la réalisation, Maïli et Kautar.
Pour parler avec nous, on a le plaisir d'accueillir le metteur en scène Samuel Achache et les frères dominicains Thierry Hubert et Charles Desjobert. Et on recevra au cours de l'émission les Harmonautes. Pour commencer, les amis, vous, est-ce que vous avez déjà ressenti ce besoin de croire, même si ce n'est pas en un dieu, Clément ?
Eh bien, écoute, Léa, moi, je n'ai jamais cru en quoi que ce soit. Je suis un peu le sceptique du groupe. Je vais citer Karl Marx, mais pour moi, la religion, c'est l'opium du peuple. Et pour être très honnête, je suis désolé de vous le dire, mais moi je vois la croyance comme une forme de faiblesse, une nécessité de se rassurer dans ce monde qui n'a, il faut le dire, aucun sens. J'ai aussi ce besoin d'échapper à la réalité, comme tous les humains, mais je le fais autrement. Et je suis quand même très heureux de discuter avec vous, parce que j'aime comprendre les différentes façons de voir les choses.
Et toi, Iman ?
Bon, comme j'ai grandi au Maroc, on m'a un peu forcé la main quand j'étais petite, et je me suis rapidement détournée de l'islam pendant une bonne dizaine d'années où j'ai vacillé entre athéisme et agnosticisme parce que je voulais pas croire de force. Mais en fait, j'ai réalisé pendant ce temps-là que quand je crois en une chose, je la nourris et je lui donne de la force. Du coup, je la vois. Et donc, tu vois ce que tu crois. Mais maintenant, je pense que je crois ce que je vois et je crois en Dieu parce que je ne vois pas aucune autre possibilité logique. Quand j'observe la perfection du monde et de la création, je n'arrive pas à croire que tout ça existe par hasard et que ça a été fait par hasard. Et j'ai accepté l'islam parce que je suis née avec, mais je mélange beaucoup ma pratique entre sunnisme, soufisme, bouddhisme et d'autres choses parce que je pense qu'il y a une part de vérité un peu partout.
Et toi, Noël, ton avis ?
Moi, je suis complètement athée. Quand j'étais petit, autour d'une discussion avec ma famille, on m'a dit s'il y avait un dieu, il ne laisserait pas les gens mourir si bêtement. J'étais complètement d'accord et je pense que je le suis toujours aujourd'hui. Je n'ai pas envie qu'on me dise en quoi ou en qui croire. Et je pense que du coup, je ne croirais jamais en une religion. Et je suis content qu'on m'ait laissé le choix.
Martin ?
Moi, je suis né baptisé et j'ai fait ma première communion. Après, à l'heure actuelle, je me sens assez éloigné de ma religion. Mais ce qui n'empêche que pendant très longtemps, et encore un peu actuellement, un peu moins quand même, les soirs où j'étais un peu surpassé par les émotions, par les événements, je priais tout seul, ce qu'on peut appeler ou pas Dieu. Je vidais un peu mon sac, et ce qui m'aidait énormément, parce que je me sentais quand même moins lourd, et ça m'enlevait un poids. J'étais plus à l'aise.
Merci pour vos témoignages, guys. C'est tellement différent selon les personnes, c'est fou. Mais pour continuer cette discussion, nous avons la joie d'accueillir donc deux frères dominicains, frère Thierry et frère Charles, ainsi que le metteur en scène Samuel Achache. On est ravis de vous avoir avec nous. Bonjour.
Bonjour, on est ravis d'être avec vous.
Également, très heureux.
Bonjour à vous, frère Thierry Hubert. Vous êtes prêtre catholique dominicain. Vous êtes le producteur de l'émission Le Jour du Seigneur sur France 2. Et vous venez au Festival d'Avignon depuis 2006, où vous prenez la température du monde à travers le monde du théâtre. Charles Desjobert, vous êtes architecte du patrimoine, vous vivez au célèbre couvent dessiné par Le Corbusier, le couvent de la Tourette. Et vous venez à Avignon depuis 5 ans.
Pour commencer sur des bonnes bases et qu'on soit tous au clair, en quelques mots, frère Thierry, frère Charles, c'est quoi être un frère dominicain? Et vous êtes combien dans ce groupe?
Alors un frère dominicain, il a des cousins qui sont beaucoup plus connus que les dominicains, c'est les franciscains. Parce que les franciscains, c'est Saint François, c'est l'image au Moyen-Âge de celui qui va être proche de la nature, de celui qui va être proche des pauvres, de celui qui va vouloir annoncer l'évangile, c'est-à-dire toutes les paroles de Jésus et la personne de Jésus d'une manière un peu originale pour son temps au XIIIe siècle. Et ce sont nos cousins parce qu'au même moment, il n'y avait pas en Italie comme Saint François, mais en Espagne et du côté de Toulouse, Saint Dominique, qui faisait la même chose. Bon, alors il était un peu plus intellectuel, donc il préférait un peu plus les livres, disons, que d'être uniquement au milieu des pauvres. Donc il va décider de rencontrer le monde par l'étude. Et en rencontrant les gens, on dit qu'il a créé l'ordre un soir dans un bistrot, dans une auberge, en discutant avec quelqu'un qui n'était pas d'accord avec lui. Ils ont passé la nuit à discuter. Donc on aime énormément discuter.
Voilà, ordre des prêcheurs, si on veut prendre le nom technique. Et donc on nous surnomme dominicains, puisqu'on a été fondé par Saint Dominique. 1215, la date de fondation, début du XIIIe siècle. Et il va y avoir une grande aventure dominicaine au XIIIe siècle avec... des figures comme Thomas d'Aquin, dans cette période scolastique, le début de l'université, avec des frères qui vont vite de Toulouse partir à Paris, l'université aussi naissante, Oxford, Bologne, où meurt Saint-Dominique, en 1221.
Et vous êtes combien dans ce groupe?
Alors on est presque 5000 dans le monde, et puis en France on est à peu près 300 ou 400, ça dépend parce que la France, comme on est très compliqué, la France n'est pas tout à fait la France géographique pour nous, mais c'est aussi d'autres territoires qui dépendent directement de la France, et on a été coupé en deux aussi, enfin c'est très compliqué, mais disons qu'on peut dire qu'on est à peu près 400.
On est beaucoup moins nombreux que les jésuites.
Bonjour Samuel Achache, vous êtes metteur en scène, comédien et musicien. Vous avez été formé au Conservatoire de Paris et vous avez joué depuis dans de nombreuses pièces et dans de nombreux films sous la direction entre autres de Vincent McCain, Mia Hansen-Love ou Sylvain Creusevaux.
Et depuis une dizaine d'années, vous créez des spectacles, vous entremêlez librement des situations absurdes, des acteurs burlesques, de la musique baroque et des chansons. Au Festival d'Avignon, vous avez notamment présenté Sans tambour en 2023. Et cette année, vous créez à l'Opéra du Grand Avignon Les Incrédules, qui est un spectacle dans lequel une femme, en apprenant la mort de sa mère au téléphone, voit cette dernière soudainement entrer dans la pièce. Sur scène, on a 52 musiciens et une dizaine de comédiens qui explorent les rapports qu'entretiennent la musique et le théâtre, le visible et l'invisible, l'humour et la tragédie. Merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'inviter.
Question très directe, Samuel, est-ce que vous avez la foi? Ou en quoi est-ce que vous croyez? Vous vous limitez pas à foi si vous voulez. En quoi est-ce que vous croyez?
En fait, je sais pas.
C'est une très bonne réponse aussi.
Non, mais je peux dire, je sais pas. Je peux peut-être en dire un peu plus. Non, mais en vrai, je ne sais pas. Mais ça veut pas dire que on ne m'entend pas. Ça marche mieux? Franchement, je parle près du micro là.
Impec.
Non, je ne sais pas. Parfois, je me dis que j'aimerais bien croire, mais que j'arrive pas. Que ça m'aiderait sur des trucs, que ça me rassurerait sur d'autres. Mais il y a quand même quelque chose qui résiste. Quand j'étais petit, j'ai fait semblant de croire, parce qu'il y a quand même une différence entre la croyance et la religion. Mais en fait, ça me va de ne pas savoir, mais d'imaginer qu'il y a des choses que je comprends pas. Et que j'accepte de ne pas comprendre.
On ne sait jamais. Même si on pense qu'on sait, je pense qu'on ne saura jamais avant de mourir.
Mais non, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que c'est savoir pour soi. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, on ne saura jamais. Enfin, on ne saura jamais. Mais en tout cas, on trouve on trouve une réponse pour soi de l'existence d'un être autre auquel on veut bien croire et qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Bon, bah ça, on sait pour soi qu'on y croit.
Oui.
Non, mais c'est hyper important, en fait, de faire la différence,
je comprends, C'est comme... on se donne une... on veut croire en quelque chose juste pour mieux se sentir soi-même et pouvoir avancer d'une manière... où on sera confortable, quoi. Enfin, si ça fait sens.
Je me souviens que quand on a fait Les Incrédules, on a commencé par faire énormément d'entretiens, de rencontres autour de la question du miracle. Donc, peut-être on y reviendra, mais en gros, on a interrogé beaucoup de gens sur qu'est-ce que c'était que pour eux un miracle, qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, et ce qu'ils pensaient en avoir déjà rencontré un, vécu un, traversé un. Et on est allé notamment en Italie, où la question du miracle et de la foi se pose très différemment qu'en France. Et quand je suis arrivé, j'ai rencontré un prêtre, et on avait fait une sorte de grande réunion dans son église, et je me souviens d'une chose, c'est qu'il disait, en gros, moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que les gens sortent de l'église, partent de l'église. Ce qu'il voulait dire par là, c'était...
Remettre en question.
Pas forcément remettre en question, mais ne pas s'appuyer sur la croyance pour se débrouiller tout seul.
D'avoir l'expérience de la vie et de la réalité.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément... On peut croire, me semble-t-il, sans pour autant que ce soit... que c'est à voir avec une béquille, vous voyez ce que je veux dire ?
Une réaction, peut-être ?
C'est-à-dire que ça me fait penser, pour reprendre un peu peut-être des mots de saint Augustin, donc on est au IVe siècle, qui disait, mais au niveau de la foi, amenez-moi quelqu'un qui aime, et peut-être qu'on va réussir à commencer à parler. C'est-à-dire que l'expérience de la foi, elle est un des chemins, c'est l'expérience de l'amour. C'est-à-dire que quand vous aimez, tout d'un coup, vous vous mettez à croire des choses auxquelles vous ne pensez pas quand vous ne faites pas cette expérience de l'amour. Et dès lors que si le chemin de la foi qui Et c'est-à-dire la foi, en latin, c'est la fides, c'est-à-dire la confiance. C'est-à-dire que quand je te fais confiance, eh bien, évidemment que je ne sais pas tout ce que tu peux m'apporter, tout ce que tu peux me donner, mais je fais le pari que ça va être une aventure qui va me dépasser. Eh bien, l'expérience de l'amour aussi est une sortie de soi qui me fait vivre l'expérience de la communion et de la joie. Et l'expérience de la foi, elle est de, moi je dirais qu'elle est de cet ordre-là. Et par conséquent, évidemment que quand je te fais confiance, je ne suis pas sûr que cette confiance, elle va être garantie à 100%. Donc il y a du doute. Donc il y a l'épreuve des nuits où on ne dort pas. Donc il y a l'épreuve de se dire, mais tout ça n'est peut-être qu'une illusion. Mais quand se vit dans sa chair, dans son cœur, l'expérience de l'amour et de la joie, le monde a une autre couleur, disons.
Samuel, à votre avis, est-ce qu'on peut vivre sans croire ? Si oui, comment vous faites ? Et est-ce que vous voyez la religion comme un moyen d'être heureux ?
Justement, je pense qu'on. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne sais pas si. Je ne sais pas. Donc je pense que. Et ça me va bien de ne pas savoir. Et je dirais même que ça. Enfin, ça m'empêche pas de vivre. Hein. Et la réponse est... je connais plein de gens qui croient pas du tout. Ils vivent très bien.
Juste avant, on parlait de foi et de croyance. Vous, frère Charles et frère Thierry, vous parlez plutôt de foi que de croyance. Quelle distinction vous faites entre les deux ?
C'est vrai que le terme de croyance m'étonne toujours parce que c'est un terme qu'on emploie peu dans notre langage dominicain habituel. On le voit ressortir peut-être plus fréquemment aujourd'hui ou par des personnes qui sont assez loin de la foi ou de la foi telle qu'on peut l'entendre nous comme chrétiens. Y a une folie dans la foi, c'est sûr. Moi, je me souviens jeune étudiant, voilà, me disant mais si tout ça est faux, il faut se barrer tout de suite, évidemment, de l'Église, d'un ordre que je commençais à côtoyer. Thierry, le frère Thierry disait c'est vrai qu'il y a cette confiance qu'on fait, confiance en d'autres, parce que bon, pour la foi chrétienne comme pour les autres grandes religions, on va faire confiance en voilà, quelque chose qui est transmis, qui arrive d'ailleurs, de plus loin que nous. Et tout d'un coup, on se dit, bah, ceux qui ont cru, les apôtres, les disciples, nos grands-parents, nos parents, pour moi, c'est mes sœurs essentiellement qui m'ont parlé du Christ quand j'étais jeune. Ceux qui nous transmettent la foi, à un moment donné, on fait confiance. Alors, c'est sûr que quand on devient adulte, il y a ce pas-là où on se dit, mais ce dont on nous a parlé, est-ce que c'est du baratin? Est-ce que c'est un catéchisme qu'on doit laisser dans l'enfance et qui se résume à une petite crèche et trois Je vous salue Marie? Ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'un peu plus profond qui va pouvoir se vivre?
Moi, je voudrais vous poser une question par rapport à cette enfance, en fait. Très souvent, enfin, on est dans une religion, on est NAIT, mais on ne sait pas pourquoi on croit, on ne sait pas pourquoi on fait toutes ces choses, on ne sait pas en quoi on croit. On se laisse vraiment influencer par des vérités qui sont données par nos parents, quelle que soit notre religion de naissance. Et on n'a pas forcément une expérience spirituelle encore. On n'a pas vraiment... On a l'expérience de l'amour, mais on a l'expérience de l'amour paternel et maternel, mais pas cet amour infini de Dieu. Et moi, je demande, ma question, c'est est-ce qu'on peut avoir la foi sans forcément avoir d'expérience spirituelle?
On peut avoir la foi du charbonnier, en tout cas. oui, je pense que, en tout cas, c'est toujours difficile de juger de la foi des autres. On peut peut-être le faire pour soi-même, mais c'est très délicat, même moi comme prêtre, de juger d'une foi qu'on peut voir, dont on peut voir quelques échos. Il y a une expérience souvent...
Dans mon exemple, c'est vraiment à l'enfance, quoi. Ouais. Quand on est enfant et qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce qui nous entoure, mais qu'on est quand même dans quelque chose et on est un peu forcé à faire ce qu'on doit faire.
Ben, moi, je dirais, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Moi, vous voyez, je suis peut-être un obélix.
Vous êtes tombé dans la marmite.
Ouais, je suis tombé dans la marmite catholique quand j'étais petit, par mes parents. Et que de ce fait-là, c'était une expérience entre copains et copines dans des mouvements de jeunes, où on était tous ensemble. Je pense que ce besoin d'être tous ensemble et puis d'avoir à s'amuser, d'avoir à réfléchir, d'avoir à nous questionner, de faire déjà un peu du théâtre même à l'intérieur de groupes catholiques, etc. C'est sûr que ça donne une manière d'aborder les questions de l'adolescence et des questions, disons, du monde des adultes sous un aspect où il y a de la confiance entre les gens. Enfin, vous voyez, et moi, je pense qu'on crève... Parce que n'arrivant plus à faire confiance ni dans un absolu, ni dans les autres, mais on se trouve profondément seul. Or, la grande expérience, et je pense que c'est l'originalité du christianisme, c'est de dire que ce qu'on doit vivre, c'est de la communion. Voyez, c'est de voir le plaisir d'être ensemble. Et Avignon, voyez, c'est un des grands avantages de ce festival d'Avignon, c'est que là, on est tous ensemble, on ne pense pas la même chose, mais on est ensemble. D'accord? Et cette foutue société, elle cherche à nous dire que quand on n'est pas d'accord, on ne doit pas se parler. Ou on doit dire que l'autre, c'est quelqu'un qu'il faut exclure. Eh bien, vous voyez, Avignon, parce que c'est la cité des papes, parce que c'était Jean Villard, parce que dans l'église, c'était le Père Chave. Et puis 75 ans après, eh bien, on est là et on vit cette communion. Eh bien, ça me paraît hyper fort quand on est gamin de vivre l'expérience de la joie d'être ensemble, quand bien même on n'est pas d'accord.
Et vous, Samuel, vous en pensez quoi?
De la communion ou de comment on tombe dedans quand on est petit?
De comment on tombe dedans quand on est petit, et même la communion, si vous voulez, mais en tout cas de votre point de vue.
J'écoute, j'entends, je peux pas parler pour les autres.
Moi, non, mais parler pour vous-même,
c'est ce que je vais faire, ouais. Moi, je suis juif. Mais je suis juif un peu. Ma mère est pas juive, c'est bizarre. Ma mère était. Enfin, c'est bizarre, non, ça arrive. ma mère était même pas baptisée, elle a fait sa communion, sa profession de foi. Et puis après, elle s'est vraiment déclarée athée. Mais elle a voulu que j'aille au Talmud Torah et que je fasse ma bar mitzvah. Mon père n'avait pas, lui, fait sa bar mitzvah. Et j'y suis allé un peu, mais pour d'autres raisons, en fait. Mais effectivement, en fait, j'ai pris ça comme un enseignement pas tant religieux, parce que franchement, j'apprenais à lire l'hébreu sans vraiment le comprendre. Je lisais les prières et je me posais vraiment la question de savoir si je croyais vraiment ce que j'étais en train de lire. Mais en fait, c'est bon. Toutes les religions le font, mais le principe de la bar mitzvah, c'est qu'on doit écrire un commentaire. C'est-à-dire qu'on est obligé de réfléchir à ce qu'on dit. Donc on est obligé de réfléchir, on doit faire ce qui s'appelle une dracha. Et donc écrire un texte qui vient commenter le passage de la Bible qu'on est censé lire à ce moment-là.
Et, de la Bible ou de la Torah ?
Oui. Et c'est cette raison pour laquelle ma mère, elle a dit non, en fait, je veux que tu le fasses. Parce que, de fait, j'ai aussi une famille juive dont beaucoup ont été déportés pendant la guerre, etc. Et donc, la question d'être juif, c'était au-delà de la question de la religion ou de la croyance. Et en plus de ça, je suis tombé, en fait, la Bible est découpée en parachas, donc on lit la Bible en un an, et chaque semaine représente un bout. Et moi, j'étais tombé sur... j'ai de la chance, hein, parce qu'il y a des trucs hyper techniques. Moi, j'étais tombé sur le moment où il reçoit les tables de la loi. Et Moïse reçoit les tables de la loi. Et il y a notamment, tu ne me contracteras pas de mariage mixte. Et moi, j'étais évidemment issu d'un mariage mixte. Donc, c'était du pain béni. Pour reposer cette question-là aussi à l'aune de mon expérience et aussi d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont eu une valeur à un moment, qui sont arrivées pour des raisons aussi très précises et souvent très pratiques. La question de la cache-route aussi, ça vient de quelque chose de très pratique, de purification des aliments, etc., pour pas tomber malade. Hein. Mm. En fait, c'est pas plus compliqué que ça, à la base.
Moi, ce que j'ai compris de votre expérience, c'est que même jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait ce que vous deviez faire en tant que juif, mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez cette expérience spirituelle avec Dieu directement. Il y a peut-être... Non,
en fait, j'ai
mal compris.
J'ai pas fait ce que je devais faire. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. C'est hyper important. J'ai pas fait ce que je devais faire en tant que juif. J'ai fait ce que je devais faire parce que ça me semblait avoir du sens aussi pour savoir aussi d'où je viens, d'où vient ma grand-mère, qu'est-ce que c'est que cette histoire, et aussi comme un outil de réflexion.
Donc c'était
plus que comme un outil de croyance.
C'était un peu comme une quête identitaire.
Non, c'était une quête de connaissance, quoi, de curiosité, de identitaire, parce qu'effectivement, je viens de là. Mais ça n'a rien à voir avec... j'avais pas besoin de savoir qui je suis. J'étais juste curieux, parce que c'est passionnant, ces histoires. Et en réalité, elles sont constitutives de tout ce qu'on fabrique aussi aujourd'hui. Je vais pas commencer à dire des banalités, mais on se fout sur la gueule encore pour ces raisons-là.
Frère Charles, moi j'avais une question. J'ai l'impression que tout le monde cherche à avoir foi en quelque chose. Ça en devient presque une course à l'attachement. Si c'est pas la religion, ça va être le développement personnel, les influenceurs, les célébrités, l'argent et j'en passe encore. Pour vous, c'est quoi un messie ?
Alors c'est vrai qu'on a peut-être toujours tendance à s'attacher. Ce qui est un risque aussi, hein, mais à s'attacher. Et en même temps, peut-être que ça dit quelque chose de notre fragilité humaine et notre besoin des uns des autres. D'abord, fondamentalement, j'aimais bien, et je vais revenir à la question du Messie, mais cette phrase d'un dominicain, le père Couturier, qui disait « La liberté est entrée dans ma vie ayant le visage de l'amour ». Moi, c'était, j'y repensais tout à l'heure, comme adolescent, c'est ça qui m'a tenu. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, de sentir cette liberté qui rentre dans ma vie et que la foi, elle est de cette teneur-là. Alors, un messie, c'est quoi un messie ? Alors, si on reprend l'étymologie biblique ou si on revient à l'Ancien Testament, à la Première Alliance, c'est un terme hébreu, Meshia, donc le messie, c'est loin, celui qui a reçu l'onction, celui qui va être roi. Et le premier messie...
C'est quoi l'onction ?
L'onction, c'est quand on vous met de l'huile sur la tête, on vous oint, Le terme en français est un peu compliqué, c'est peut-être pour ça qu'on a préféré le mot Christ ou le faux mot Messie pour parler de ce terme en français. Et loin, le premier Messie, c'est Saül, c'est donc celui auquel succédera David. On pourrait dire que c'est un salaud, Saül, mais il va y avoir un second Messie, c'est David. Et c'est les chrétiens qui vont transformer ou enrichir ce terme de Messie qui va quitter seulement la fonction de celui qui est oint pour celui de sauveur. Le Messie, le Christ, puisque c'est le mot grec équivalent, hein, Messie en hébreu, grec en grec Christ, le pomadé, l'oint, celui qui a reçu l'onction, pour les chrétiens, va devenir également, plus que simplement le roi ou le fils de David, il va devenir aussi le sauveur du monde. Et c'est ce qu'on entend quand aujourd'hui on l'utilise, je pense souvent en français. C'est un Messie, c'est voilà celui qui va sauver, qui est celui qui va venir sauver l'humanité, avec souvent la confusion avec le super-héros sans doute.
Et on observe aujourd'hui un rejet de la science, une défiance envers les institutions, par exemple avec Trump qui veut supprimer des livres, donc supprimer le savoir. Donc on veut nous faire croire en des personnes plutôt qu'en des faits. Est-ce qu'au final ça serait pas juste une question d'éloquence et de charisme? Je vous propose d'écouter des extraits sélectionnés de différentes personnes avec plus ou moins d'influence et on commente ça ensemble. C'est parti.
Which is why I alone can fix it.
Donald Trump a prononcé la phrase « Personne ne connaît mieux le système que moi, c'est pourquoi je suis le seul à pouvoir le réparer » lors de son discours à la Convention nationale républicaine en 2016. Il a bien précisé le « je suis le seul ». Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être sauvé? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se sauver soi-même?
En tout cas, ce qui est fort, c'est qu'on a inconsciemment quelque chose d'enfoui en nous qui demande à être sauvé. Voilà. Et pourquoi on a besoin de figures qui viendraient nous sauver? Nous sauver de quoi? Sans doute que ultimement quand même cette mort qui permet en même temps l'émergence de la culture, l'émergence de la mémoire, l'émergence de la parole et de grands récits, la mort est quand même ce qui nous plombe le plus et qui nous amène à nous dire est-ce qu'on pourrait être sauvé de ça? Voilà. Est-ce qu'on pourrait être sauvé de ça? Et que s'il y a la mort, évidemment, qui est l'ultime fin de notre vie ici-bas, notre vie est aussi faite de plein de petites morts où on sent qu'on est dépossédé de soi et qu'on est arrivé à peut-être à ne plus tenir notre vie comme on voulait la tenir. Et donc, comment on fait pour vivre là-dedans? Vous êtes très jeune, et vous êtes souriant et vous êtes ensemble. Moi, je crois que vraiment, c'est très important, cette notion d'ensemble. J'étais une fois à Thésée et on demandait aux frères, mais comment vous faites alors que vous êtes de nationalités différentes et que c'est la guerre et que vous croyez encore à la paix? Et le frère responsable avait juste dit, ben, on est ensemble. Vous voyez, il n'avait pas fait de grand discours pour dire, ah, ben, quand on prie, on est au septième ciel et puis c'est cool. Non, on est ensemble. Vous voyez, c'est très important, ça, cette notion d'être ensemble. Et donc, je crois qu'on a besoin d'être sauvé, pas tout seul, et que de cette mort-là, eh bien, on est prêt à croire parce que l'idéologie du progrès a échoué, parce que les idéologies politiques ont échoué, parce que les idéologies religieuses ont échoué. On est prêt à se jeter peut-être aujourd'hui dans quelque chose qui serait l'argent, parce qu'on a l'impression que l'argent, avec Monsieur Trump et Elon Musk, c'est plus facile qu'autre chose. Eh bien, ce serait notre réponse. Évidemment que non, ou c'est notre nombril qu'on voudrait sauver soi-même, et donc on se dit que les autres qui viennent empiéter sur notre petit territoire, on voudrait plus qu'ils soient là. Ben, c'est là que c'est très difficile et que la question religieuse, elle est forcément aussi politique à un moment donné, si j'ose dire, voyez. Et que ensemble, comment on va faire pour vivre? Ben, nous, on croit que dans la tradition judéo-chrétienne et aussi dans le Coran, eh bien, on a des grands récits qui nous apprennent à vivre ensemble, à vivre cette hospitalité. Vous voyez, il y a un petit mot grec, le petit mot grec de l'hospitalité, dans la Septante, qui est la traduction de la Torah en grec, c'est philoxénia. La philoxénia, c'est l'antonyme de la xénophobie. Voilà. Et ben, si on pouvait être des adeptes de la philoxénia, et ben là, on serait tous à l'image de Dieu, comme on nous le dit depuis le début de la Bible.
On a aussi demandé à ChatGPT s'il pensait être un nouveau messie.
Comme un messie libère ou éclaire, moi je rends l'information et la compréhension disponibles instantanément. Comme une présence absolue ou une conscience supérieure, je suis là à toute heure. Ça fait partie du mythe, une voix toujours disponible, presque omniprésente.
C'est effrayant.
Mais pourquoi il a un accent? Mais quel accent surtout?
Je ne sais pas, c'est à la réelle de... C'est eux qui...
J'ai mis des options sur la voix ou pas? Parce que ça racontait énormément, enfin, c'est très étrange.
Ouais, c'est la synthèse.
Et c'est un homme qui a l'air de parler en plus.
J'ai l'impression en plus. Iman, à ça, toi.
Mais c'est carrément un nouveau dieu qu'on entend. Enfin, je sais pas. À votre avis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on arrive à donner sa confiance à d'autres entités que Dieu, comme vous disiez tout à l'heure, l'argent ou les stars, les politiques, les influenceurs, même des pierres quand même aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Dieu est remplaçable?
Je vous en prie, allez-y.
Ah non, allez-y.
Allez, vas-y, Charles. Puisqu'il est question de pierres, quand on est architecte du patrimoine, on sait que les gens peuvent mettre dans les pierres beaucoup de leur vie.
Bah c'est sûr que la tentation de l'idole, elle est toujours là. Elle est ancienne. Hein. Elle parcourt la Bible, c'est vrai. Elle parcourt aussi chacune de nos vies. L'idole, alors on disait que ça peut être l'argent, ça peut être son soi sur TikTok ou ailleurs. Ça peut être effectivement ce qui semble nous tenir complètement. Ces idoles, le problème, c'est qu'elles ont une bouche et ne parlent pas, et des yeux et ne voient pas. Et à un moment donné, ces idoles, elles sont confrontées au vide complet de ce qu'elles sont. Et ça, je crois qu'on le perçoit assez vite. Parfois, il faut une vie aussi pour le percevoir. Ou alors, il faut accepter de réaliser que ce en quoi on avait mis notre foi est en fait assez vain. On peut se masquer cette réalité-là, mais elle demeure. Donc, alors le problème, c'est Dieu, de Dieu dont on peut faire une idole. Et nous, chrétiens, ça peut nous arriver sans cesse, c'est-à-dire de vouloir mettre la main sur cette présence, sur cette personne, sur ces personnes, pour des chrétiens, trois personnes, qu'est Dieu. Et donc, dès qu'on veut mettre la main, dès qu'on veut commencer à définir, eh bien, on risque effectivement de faire une idole. Alors, on essaye d'avoir une parole. Pour nous, c'est cette rencontre avec le Christ, elle est toujours en avant de nous, cette question-là. Oui.
Et c'est pour ça que dans la tradition juive, enfin, il y avait l'interdiction des images, voyez. Parce que si on fait une image de Dieu, et bien tout d'un coup, et même de ces créatures, c'est que tout d'un coup, on les encadre en quelque sorte et on les maîtrise. Or, on ne peut pas avoir une maîtrise ni de Dieu ni des autres. Voyez, donc quand vous dites avec raison, voilà, la religion c'est l'opium du peuple, c'est-à-dire que normalement, dès la tradition juive et normalement la religion chrétienne, eh bien on se méfie. On se méfie de tout encadrement qui viendrait mettre la main sur, voilà, sur Dieu ou sur les autres. Et que c'est pour ça que j'aime bien quand un philosophe contemporain gaucher dit que la religion, le christianisme, c'est la sortie, c'est la religion de la sortie de la religion. C'est-à-dire qu'il y a tous les éléments dans le message de l'évangile pour faire péter la religion, sauf que malheureusement, la religion, on en a quand même besoin. Donc, vous voyez, c'est une tension permanente qui doit non pas être vaine, mais qui doit plutôt être féconde, de manière à nous faire comprendre qu'en fait, si humainement nous avons besoin les uns les autres de formes pour pratiquer notre religion, ultimement nous savons bien que c'est dans notre cœur et en esprit en vérité qu'est notre relation à Dieu, et certainement pas dans un encadrement qui serait trop dogmatique ou qui serait enfermant.
Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi, mais on peut quand même, désolé, je rebondis, mais on peut quand même, je pense, ressentir la présence de Dieu dans notre cœur sans forcément faire partie d'une religion.
Évidemment. C'est,
et je pense que c'est quand même quelque chose d'important.
C'est essentiel. Oui. Oui, oui, oui.
Merci beaucoup, Iman. On va passer au troisième extrait.
There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
Dans cet extrait, Greta Thunberg se moque des présidents. Elle défie le pouvoir tout en rassemblant une génération. Ça vous fait quoi de voir que des millions de personnes supportent une même personne ?
Ça dépend pour quelle raison. Et puis ça dépend, est-ce que c'est elle qu'on suit ou est-ce que c'est ce qu'elle porte et qu'est-ce que c'est que la position qu'elle a ? par rapport à ce qu'elle porte, j'imagine.
Et vous, Thierry?
Vous voyez, c'est-à-dire que, évidemment, tous ces influenceurs qui ont des milliers de followers, ce qui est dramatique dans les algorithmes de tous ces moyens numériques, c'est qu'en fait, pour reprendre la thématique de ce que disait Charles tout à l'heure, c'est que ça fabrique de l'idole, vous voyez ? C'est-à-dire que les algorithmes sont faits, enfin, et c'est filmé de telle manière à ce que, en fait, nous, consommateurs, on avale les images sans trop réfléchir, mais on les avale, vous voyez ? Et puis, on devient des consommateurs. Alors que même des produits qui vont nous faire plus réfléchir, eh bien, ne vont pas plaire aux algorithmes, donc vont être mis de côté et ne vont pas être mis en valeur par... vous n'allez pas être sollicité pour les voir, voyez. Donc, c'est très problématique, la création des influenceurs YouTubeurs, parce que ça peut créer de l'idolâtrie et ça peut vider notre cerveau, quoi. Alors même que nous serions tentés généreusement de nous dire que par ce petit outil magnifiquement inventé, eh bien, on va apprendre à réfléchir ensemble. Mais ce n'est pas forcément ce que les algorithmes nous proposent.
Merci beaucoup. On va accueillir les harmonautes qui vont peut-être avoir des choses à nous dire.
Bonjour.
Bonjour.
Merci. Bonjour à tous. Bonjour à toutes.
Bonjour.
Merci de votre accueil. On est très heureux d'être ici. Merci pour l'invitation. On est les harmonautes, pour nous présenter brièvement, on a un quatuor d'improvisation théâtrale, poétique et musicale. On a donc avec nous deux musiciens qui vont improviser en live. Et je suis avec Mathéo qui va improviser avec moi. Donc si ce n'était pas très clair jusqu'à présent, pour information, tout ce que vous allez voir n'est absolument pas prévu. Nous n'étions pas du tout au courant de la thématique, de ce qui allait être dit et des invités d'aujourd'hui. Donc on est très heureux de pouvoir participer. Si vous pensez que c'est terrifiant, sachez que nous aussi.
Pour cette première histoire, donc avec Daniel au piano, Célestin à la clarinette et Quentin à la voix, on va vous demander, donc à vous huit, un mot chacun, des mots qui sont complètement déliés les uns des autres et qui vont être les piliers de cette histoire qu'on va inventer. Donc on vous écoute pour un mot chacun, un total de 8 mots.
Quelqu'un a une idée comme ça ? Parce que j'en ai pas pour le moment.
Roux,
t'as dit la roue. Roue à la roue. La roue qui tourne ? Ou la roue, la grande roue ?
C'est une roue.
C'est lui qui verra ça.
Ok.
Une roue.
Ben, moi, pour jouer avec le mot roue, je dirais roua en hébreu, qui veut dire l'esprit, le vent.
Oh là là.
Ah, bon courage.
Bon courage.
Et pour poursuivre...
Roua, ça se prononce
roua.
Roua.
Et pour poursuivre, ben, on dira pneumatique.
Un truc complètement rien à voir, je vais dire...
Tondeuse à gazon.
Ok.
Je vais dire ciel. Rhododendron.
Et puis moi, je veux dire table.
On a eu rhododendron, c'est une sorte de plante, on a table.
Et moi, je vais dire le numéro 4.
Numéro 4.
Merci beaucoup, on a donc 8 mots pour raconter une histoire. Nous avons roue, roua, qui correspond donc à l'esprit, pneumatique, tondeuse, ciel, rhododendron, table et le numéro 4. Il faudrait imaginer une sorte de carriole qui serait en mouvement depuis déjà des dizaines d'heures. Et ses roues commenceraient à s'effriter petit à petit. C'est une vieille carriole. Une vieille carriole en bois. Ses roues commencent à être attrapées par les épines. Et au milieu de cette carriole, il y a un conducteur, un navigateur, quelqu'un qui continue d'avancer de plus en plus vite et qui ne lui laisse aucun répit. Quelqu'un qui ne lui laisse pas la chance de se reposer, de se restructurer, qui ne laissera pas la chance au bois de se reconstruire. C'est quelqu'un qui a besoin d'avancer, qui n'est pas dans les choses matérielles, qui n'est pas dans la délitation des machines, qui n'est pas dans cette représentation-là de la machine qui est en train de s'effriter. C'est quelqu'un qui est dans un voyage de l'esprit, qui est dans la loi. Quelqu'un qui est en train d'avancer. Quelqu'un qui est en train d'avancer et qui, juste par son esprit, a l'impression d'avancer encore plus vite qu'un vaisseau qui pourrait être inventé plus tard à base de pneumatiques ou une machine à vapeur. Ils n'ont pas besoin de ça. Il est juste dans sa carriole et il a l'impression d'avoir le véhicule le plus rapide du monde. Il a l'impression de pouvoir défier tout, toutes les contraintes. Il a l'impression d'avancer dans le monde et d'être complètement invincible. Et seul, dans sa carriole, il pense à sa quête à venir.
Au départ, je voulais une famille. Je voulais parcourir le monde, mais je voulais le partager avec des gens, avec une femme, avec des enfants. Aujourd'hui, j'ai que ça. Un véhicule qui s'effrite, qui s'écroule. Je suis pas malheureux pour autant. Je voyage. Je vais de ville en ville. Je présente mes œuvres d'art. Je passe parfois devant des décombres, parfois devant des ruines, parfois devant des belles maisons, des beaux pavillons, avec quelqu'un en train de passer la tondeuse à gazon.
Mais sa carriole avait le même effet qu'une tondeuse. Sa carriole avait exactement le même effet, sans qu'il se rende compte, bien que les gens l'aillent depuis l'arrière. Il ne se rendait pas compte que sa roue froissée abîmait le paysage. abîmaient le chemin de terre, abîmaient les chemins de pierre, abîmaient tout derrière eux. Il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas très bien comprendre, mais on se rendait compte que petit à petit, la végétation était plus faible, que les rhododendrons s'abîmaient, que les plantes, les tulipes, tout était un peu plus fade. À force de cette fuite en avant pour présenter ses œuvres d'art un peu partout, à force d'avoir abandonné ses rêves d'être ensemble, de construire à deux, à plusieurs, peut-être encore à plus et de fonder une famille, il se rendait compte que tout était en train de se déliter. Pas seulement la tondeuse, pas seulement ce qu'il y avait sous lui, pas forcément sa carriole, mais bien aussi une partie de son être. Il sentait que le ciel se couvrait de nuages, que le vent soufflait un peu plus fort, un peu comme maintenant. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui défiait son projet, défiait son plan. Et un jour, s'arrêtant à une table pour un simple repas, il rencontra un autre aventurier. Un aventurier qui lui aussi était passé par cette quête.
Je le connaissais pas, mais il m'avait l'air familier. J'avais envie de lui parler. Je lui ai dit, tu te demandes jamais pourquoi tu fais ça ?
Il y a 4 raisons pour lesquelles je fais ça.
Commence tout de suite par la numéro 4.
La numéro 4 ? C'est pour avoir ce type de discussion avec quelqu'un, pour pouvoir échanger sur les aventures, pour pouvoir rencontrer quelqu'un et simplement lui partager des souvenirs, récupérer quelques souvenirs et le mettre dans mon petit grimoire qui est dans ma tête.
La discussion était très brève, mais passionnante, pas par son contenu, mais par ce qu'elle m'a fait ressentir. Je me suis demandé, mais c'est très égoïste ce que je fais en fait. Je parcours le monde pour montrer mes œuvres, pour montrer mon travail, pour que les gens voient ce que moi je fais, ce que moi j'aime, ce que moi je trouve beau. Et derrière moi, je détruis tout. L'enfer est pavé de bonnes intentions. À quoi bon ?
Pour la première fois depuis des années, la carriole prit le chemin inverse. Elle retournait sur ses pas, constatant les dégâts, prêt à les réparer.
Merci beaucoup.
Waouh, le niveau ! Vous m'avez fait sortir tout mon stress, merci beaucoup. On va vous retrouver un petit peu plus tard pour une nouvelle intervention, donc vous en faites pas, le cher public et chers auditeurs, on les retrouvera très vite. On a une chronique de Joyce qui n'est pas à la régie, mais elle va arriver, et de Noan qui nous parle justement des vœux présidentiels et des conclusions des fins d'année.
À la jeunesse, les micros !
Les micros.
Françaises, françaises, mes chers compatriotes.
En 2008, crise financière mondiale, entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Mais comme dit notre cher président Sarkozy...
L'année 2008 s'achève. Elle a été rude, mes meilleurs vœux pour 2009.
Grève générale dans les départements d'outre-mer contre la vie chère. Et pas de chance, le président Sarkozy est victime d'un malaise vagal en faisant son jogging.
L'année 2009 a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau.
Passage de la tempête Xynthia faisant 51 morts, grève contre la réforme des retraites saison 1, loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.
L'année 2010 s'achève. Je sais qu'elle fut rude, mais l'année 2011 s'annonce porteuse d'espérance.
Eh bien non, montée de l'insécurité et du débat identitaire, Sarkozy instrumentalise les thèmes de l'immigration, de l'islam pour préparer sa campagne.
L'année de 2011 s'achève. Elle aura connu bien des bouleversements. L'année 2012 sera celle de tous les risques, mais aussi de toutes les possibilités.
Attentat de mars 2012 à Toulouse et Montauban contre une école juive et des militaires français. 8 morts. En mai, Nicolas Sarkozy termine son mandat. Il est considéré comme le président des riches.
Hollande président !
Découverte de viande de cheval dissimulée dans des steaks 100% pur bœuf. En avril, la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe arrive en France. Elle divise les Français. Attentat de la Défense, 1 mort.
L'année 2013 a été intense et difficile. L'année 2014 sera aussi l'année des décisions fortes.
Toujours pas. Guerre en Ukraine commence. Hollande nomme Macron ministre de l'économie. L'affaire Big Malion éclate.
L'année 2014 fut une année rude. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité.
Attaque de Montrouge, attentat de Charlie Hebdo, la loi Macron sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est adaptée définitivement à l'Assemblée nationale au moyen de l'article 49.3 saison 1. Une série d'attentats en Ile-de-France fait 130 morts et plus de 350 blessés. L'état d'urgence est déclaré.
2015 fut une année de souffrance et de résistance, faisant de 2016 une année de vaillance et d'espérance.
Grève, manifestation contre la loi travail qui passe finalement sous un 49-3, saison 2. Puis un attentat à Nice. Le président Hollande renonce à être candidat à sa succession en 2017 tellement c'est chaud en France.
Le président marié à sa professeure, le prénommé Emmanuel Macron.
2017, émeute, attentat, incendie.
L'année 2017 s'achève et je ne vais pas passer trop de temps à revenir sur celle-ci.
2018, c'est toujours la merde.
L'année 2018 ne nous a pas épargné en émotions intenses de toute nature. Cette année 2019 est à mes yeux décisive.
Encore des émeutes, séismes, incendies de Notre-Dame de Paris, mort de Chirac, attentats et gilets jaunes, bref, Macron.
Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La décennie qui s'ouvre peut être la nôtre.
2020, Covid.
Oui, cette année 2020 a été difficile. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun.
Oui, il y a eu des confinements, vaccins, couvre-feu, soignants sous pression, pas assez de lits de réanimation, baisse du budget pour la santé, augmentation des violences policières. Bref, toujours Macron.
Continuons à regarder avec courage, audace et lucidité notre avenir pour agir. Restons unis, bienveillants, solidaires. Restons du côté de la vie. Alors 2022 sera l'année de tous les possibles.
Et non, Macron est réélu, mais c'est toujours les mêmes problèmes.
Des crises ensemble, nous en avons tant surmonté. Ensemble, nous allons réussir. C'est fort de cette confiance que je vous présente tous mes vœux pour cette année nouvelle.
2023 aura été marqué par la poursuite de la guerre en Ukraine, la guerre aujourd'hui au Proche-Orient et les bombardements à Gaza, les attaques terroristes du 7 octobre en Israël. 2024, dissolution de l'Assemblée et on vire les étudiants de leur chambre pour les Jeux Olympiques.
Je dois reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Je nous souhaite pour 2025 d'être unis, déterminés et fraternels. Très heureuse année 2025 à vous et à vos proches. Bonne année à tous, vive la République et vive la France.
Making Waves Avignon présente
À la jeunesse, le métro.
On est toujours au cloître Saint-Louis en compagnie de Iman, Noan, Martin et Clément, avec nous les frères dominicains, frère Thierry, frère Charles et Samuel Achache.
On vient d'écouter la chronique de Joyce et Noan. Qu'est-ce que ça vous raconte, Samuel, par exemple ?
Surtout quand on parle de confiance, en fait.
Est-ce que ça vous parle ?
Ça pose la question de la foi. Non, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà ce que ça me pose comme question.
Sur la question de la foi, c'est aussi la question de la promesse d'une parole, quoi. Vous voyez ? C'est sur notre capacité à faire des discours qui tournent en rond et qui tout d'un coup ne sont plus l'expression de la présence de la personne, mais juste d'un discours un peu vide. Et je pense qu'on crève beaucoup là-dessus. Alors, évidemment, nous les Dominicains, on a été créés, on est un ordre qui est lié à la parole, on est polarisé par la parole, donc on vit un peu dans la parole, on est travaillé par la parole. Et donc, on évite de blablater. Bon, ça peut nous arriver. Excusez-nous si vous trouvez qu'on blablate, mais il y a quelque chose de ça, quoi. C'est-à-dire que je pense que notre rencontre même individuelle à chacun avec l'ordre, c'était une histoire de parole, de se dire ce que j'entends. Je trouvais que les frères, par exemple, prêchaient avec leur tripes et que c'était pas du discours convenu.
Voilà. Et les mots peuvent. Le problème, c'est que les mots peuvent perdre leur profondeur, devenir complètement vides. À Avignon, c'est aussi ce qu'on cherche, je trouve, au festival. Pour nous, c'est une vraie ressource que de venir ici, de s'asseoir. Pour une fois, j'allais dire, on n'est pas en acte de parole, mais on est simplement en acte de présence et de s'installer comme spectateur, de se laisser nourrir parce que par la parole du théâtre, par cette parole incarnée, cette parole en acte, ça devient un ressourcement énorme. Et ici, voilà, on s'assoit, on écoute. Et on retrouve peut-être un peu des mots qui peuvent dire quelque chose, des mots qui vont. Ça m'a beaucoup frappé en allant voir le canard sauvage, où la question de la vérité était posée de manière très profonde. Et pour la première fois, je me disais, mais en fait, la la vérité peut devenir une morale simplement qui étouffe, qui tue, qui peut détruire une famille en voulant tout d'un coup faire la lumière sur ce qui est mort chez les autres et de vouloir révéler finalement et de, au grand jour les faiblesses des uns et des autres ou la faiblesse d'une famille peut venir complètement détruire l'autre sous un prétexte qui est pourtant bon, qui est celui de la vérité.
Merci beaucoup pour ces échanges. Avant de terminer, je vais demander aux harmonautes de revenir sur scène.
Rebonjour à tous et toutes.
Bonjour.
Pour cette deuxième histoire qu'on va vous raconter, on aimerait mettre encore plus à l'honneur nos deux musiciens, pianistes et clarinettistes, Daniel et Célestin. Est-ce que parmi vous, quelqu'un pourrait nous chantonner un petit air, quoi que ce soit, n'importe quoi?
Samuel, ça
va. Bon courage. Je vous salue, Marie.
Non, peut-être Samuel ou...
Oh, c'était bien, bah, attendez, il est très bien cet air.
On prend ça ? On prend ça ?
Ok, très bien.
Et est-ce qu'on peut avoir également un lieu ? Un lieu complètement décorrélé de ça, idéalement ?
Moscou.
New York. Ah oui, Moscou, de ouf, de ouf.
Autre chose, un truc plus précis que juste une ville ?
Le Stade de France.
Le Stade de France. Donc on va pas prendre le Stade de France à Moscou ?
Pourquoi pas ? Mais t'as dit rien à voir, donc...
Mais on prend le Stade de France, très bien.
Ok, super.
Est-ce qu'on peut avoir la suite de ce thème-là, de la musique ?
À cette heure-là de la journée, le Stade de France est complètement vide. Tout le monde a déserté les lieux, tout le monde est parti. Il n'y a plus que cette sorte d'immense salle, cette immense salle qui s'étend sur des hectares et des hectares, et dont tous les sièges vides semblent se regarder, semblent s'admirer les uns les autres, attendant leurs prochains occupants. Pourtant, n'importe quel bâtiment de cette envergure nécessite l'intervention de plusieurs personnes. Et à cette heure-là précise de la matinée, il y a deux personnes qui vont commencer leur service.
À la base, moi ce que j'aime, c'est le tennis. J'en ai fait beaucoup. J'ai même voulu l'apprendre à mon fils. Je voulais lui montrer le monde. Je voulais l'accompagner. Je voulais qu'il aime ce que j'aime. Mais ça ne lui plaisait pas. Il m'a dit, papa, moi je veux jouer au foot. Moi c'est ça que j'aime. Je vois mes idoles. Je vois des gens que j'adore. Je les respecte, je les adule. Ils sont trop forts. Et je veux faire comme eux. Je veux m'amuser, avoir des copains. Je veux faire des blagues. Prendre des douches avec toute mon équipe. Qu'on rigole. Qu'on travaille, que ce soit dur parfois.
À ce moment-là de la matinée, il y a ce premier homme qui pense à son fils. Et ensuite, il y a un deuxième homme qui lui pense à son père. Qui pense à son père. Qui lui, par contre, n'avait jamais eu de passion pour le tennis. Son père qui lui avait toujours aimé le football. Qui était venu dans ce stade encore plus souvent que lui alors qu'il travaillait ici depuis 3 mois. Il avait vu tous les matchs. Il avait vu toutes les défaites, toutes les victoires, il avait crié, pleuré, hurlé de joie, même rigolé devant des actions particulièrement ridicules. Il avait tout fait dans ce stade. Sur ses sièges vides, il arrivait même à reconnaître, comme s'il s'illuminait un peu plus sous les rayons du soleil, les sièges où il avait posé son postérieur de spectateur. Il arrivait encore à les voir. 54B, 32F, 124C. C'était les 3 victoires. Les 3 victoires les plus marquantes de sa vie de spectateur. Les victoires qu'il racontait tous les samedis soirs. Au bar, entouré de ses plus fidèles amis. Il y avait Gaston, il y avait René. Il y avait aussi une pinte de bière. Vide. Et ça ramenait tout ça, ces sièges vides. Ces sièges-là tout particuliers.
Qu'est-ce que ça fait de profiter d'un endroit, de connaître les sièges par cœur, de s'être assis, d'avoir célébré, d'avoir crié, d'avoir pleuré parfois, et maintenant de parcourir cet espace inhabité pour le nettoyer.
Dans le stade, il y a 2 hommes, et maintenant il y en a 1/3. On vient de l'apercevoir, c'est pas tout à fait un homme, c'est un garçon, un jeune garçon, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à un des 2 hommes sur la pelouse.
Et on pourrait même croire qu'il y a un lien de parenté entre deux. Il est en train de courir vers les sièges. Et autant il y en a un premier qui pense à celui qui est en train de courir, à son fils, qui est en train de courir et qui est en train d'essayer tous les sièges des tribunes. Et il y a l'autre qui pense à son père qui avait essayé ces mêmes sièges des tribunes. Alors tous les deux s'élancent vers le garçon pour l'arrêter ou pour l'encourager. On ne sait pas encore trop bien, même eux peut-être ne le savent pas encore. En tout cas, ils s'élancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Ils sont plus qu'à quelques dizaines de mètres. Et l'un des deux prend pour la première fois la parole.
Tu cherches Messi ?
Ouais, j'aimerais trop le voir. J'aimerais trop le voir, Lionel Messi, c'est le plus fort.
Tu préfères pas Cristiano Ronaldo, toi ?
Non, moi je préfère Lionel Messi, c'est le plus fort. Je l'ai vu marquer plusieurs fois ici. C'était trop bien. Je l'ai vu avec mon père. Et mon père, il le confond toujours, il sait même pas qui c'est, il s'en fout un peu.
Attends petit, j'ai quelque chose qui va peut-être pouvoir te plaire. Donc là, il faut imaginer qu'il ouvre sa sacoche. Et maintenant que la sacoche est ouverte, il arrive à en tirer une sorte de t-shirt. Floqué, avec plusieurs étoiles sur le maillot, un numéro, le numéro 10, un maillot aux couleurs de l'Argentine.
Oh. Oh, c'est pas possible, mais comment t'as eu ça ?
Eh bien, je suis allé le voir à la sortie d'un match, et j'ai dit que mon père était fan. Et vu que mon père est plus là pour le porter, je peux te l'offrir si tu veux. Tu sais ce que mon père lui a dit quand il a vu Messi pour la toute première fois ?
Non ? Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit « Je vous salue Messi ». Merci beaucoup.
Merci, merci infiniment. Merci pour votre invitation. On est les Harmonautes. Est-ce qu'on peut dire où est-ce qu'on joue?
Oui,
notre...
allez-y, allez-y.
On joue tous les matins à 11h15 un spectacle d'improvisation poétique, musicale et théâtrale dont vous avez pu entendre une forme radiophonique, mais très proche de notre format en réalité. C'est à 11h15 tous les matins à l'Impro Club à côté de la rue des Teinturiers. En tout cas, merci à tous et à toutes pour l'invitation, pour votre écoute si chaleureuse et attentive. C'était un pur bonheur de partager ça avec vous. Merci.
Bravo. Merci à vous.
Bravo.
Merci beaucoup, c'était un vrai honneur. J'ai trop hâte de venir vous voir. Donc, vous l'avez dit, allez à l'Impro Club à 11h15 jusqu'au 26 juillet. Venez, allez-y, très, 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 très nombreux. Et merci et bravo vraiment pour votre musique.
À la jeunesse, les micros.
On a terminé notre dernière émission. Où m'emmènes-tu, mon frère ? Merci de nous avoir écoutés tout au long de la semaine. Merci pour votre fidélité. Merci à tous les invités pour leur présence, leur prestance, leur humour et leur partage. Vous avez fait de ces émissions les diamants qu'elles sont devenues. Mesdames, messieurs, vous pouvez retrouver nos émissions sur toutes les plateformes de podcast à la radio. Merci à la Réal infiniment pour vos doigts de fée qui coupent et remettent les micros comme des pros.
Ça a été une expérience intense pour nous tous, avec des hauts et des bas comme tout. Et j'espère que, de tout cœur que ces 10 émissions vous ont plu.
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure. Clément, Pauline, Mehdi, Mohamed, Fabienne, Hélène et Alex. À l'équipe de Making Waves et celle des Bonnes Ondes.
Et merci à tous et à toutes, à tous les camarades. Jade, Kautar, Clément, Maëly, Joyce, Neil Léonce. Martin, Léa, Noan et moi aussi, s'il vous plaît.
Ouais.
Et pour tous ces moments partagés, pour les rires, les prises de tête, les prépas en rush et tout le tralala.
Vous allez tous me manquer et je suis très content du résultat des émissions. J'ai passé 20 super journées avec vous.
J'arrive pas à croire que c'est déjà fini. On ne montrait pas une radio entre nous, genre.
Allez, allez.
Non.
Non.
Mais si on fait cliquer.
Oui, oui, faites-le, faites-le. Au revoir et bonne. Et oui, pardon, attendez. J'ai qu'on l'a oublié, mais merci beaucoup à nos invités.
Ah oui,
dernière
merci
émission.
Beaucoup à vous, pardon.
Merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé cette dernière émission avec nous.
Merci beaucoup.
Merci. Ça a été une joie, hein. Voyez.
Au revoir et bonne fin de festival à tous.
C'était Making Waves Avignon, à la jeunesse les micros.
Une série d'émissions enregistrées en public en juillet 2025
lors de la 79e édition du Festival d'Avignon.
Un projet
et une production de Making Waves.
Les micros.